Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Nous allons donc voir et vérifier si nous vivons ce que nous venons de chanter. Vous l'avez chanté de tout votre cœur. On chante des paroles profondes. Montre-moi, Seigneur, car je veux t'obéir. Si nous vivons ce que nous venons de chanter, nous allons vivre un véritable réveil dans la ville de Toulouse. Est-ce que vous le comprenez? C'est incontournable. Si nous vivons ce que nous venons de chanter, nous verrons l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Car je veux t'obéir. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. Nous allons donc revenir sur ce texte d'Éphésiens chapitre 6, où nous avons plusieurs conseils qui nous permettent de comprendre, d'expérimenter surtout, parce que comprendre c'est bien, mais il faut l'expérimenter. Mais il est clair que pour bien l'expérimenter, il faut que ça passe par la compréhension. Plusieurs fois, la Bible nous parle de la compréhension. Donc, dans ce chapitre de Paul aux Éphésiens, qui est l'aboutissement de toute la vie de l'Esprit, de toute la marche par l'Esprit, de toute la façon dont on est positionné en Christ, il y a dans ce texte, Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. » La suite, nous la verrons plus tard. C'est ces trois mots que je voudrais partager avec vous ce soir. Qu'en pensez-vous? C'est une exhortation, c'est un commandement, c'est une solution pour en arriver à expérimenter vraiment ces choses. Car s'il y a bien une chose que j'ai comprise ces dernières semaines, c'est que l'on pouvait être d'accord avec la parole de Dieu et ne pas l'expérimenter. Et c'est ce que le diable veut, c'est que nous soyons entièrement d'accord, que nous puissions même le prêcher, que nous puissions même pleurer s'il faut sur ces choses, mais que nous ne l'expérimentions surtout pas. La question que je vous pose, que je nous pose, voulons-nous vraiment expérimenter cette parole du Seigneur pour aller plus loin? Tenez donc ferme. Car c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons fermes. Vous connaissez cette parole de Jésus au début des évangiles. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui vont se faire violence, se déterminer, qui vont être fermes. Car l'œuvre de Dieu ne va pas se faire avec des hommes et des femmes qui sont le contraire de la fermeté, c'est-à-dire faibles, tout le temps en train d'obéir, de désobéir, de ne pas savoir, voilà, qui marchent dans la chair, qui combattent selon la chair, qui font tout selon la chair. Je vous répète, le diable, il veut ça. Que nous soyons faibles, que nous soyons charnels. Regardez la page, bien sûr, mais juste avant, dans les Corinthiens, au chapitre 15, il y a un texte, moi, qui m'a beaucoup parlé. C'était lors d'un conseil d'administration, je me rappelle, il y a longtemps, où j'avais pris ce verset pour exhorter les frères qui étaient dans le conseil, c'était ici à Toulouse. J'avais vraiment reçu ce verset, je l'avais vraiment reçu à cœur. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 qui exprime bien ce qu'on va partager ce soir. Et je ne voudrais pas forcément être long, même si ce que je partage nécessiterait une longue exhortation, mais peut-être aider par la prière avec mes frères ceux qui ont besoin d'une délivrance, d'une libération, d'une victoire. Car j'ai bien peur que dans l'église du Seigneur, il y ait des personnes qui n'osent pas exprimer leur défaite, leur faiblesse, leur péché, et qui ne saisissent pas cette opportunité que nous pouvons avoir parfois, comme ce soir, de dire « mais je veux faire une expérience réelle avec Dieu, ce que j'ai chanté dans le dernier cantique, je veux absolument le vivre. Il est hors de question que ça reste un beau chant avec une super belle mélodie, je veux obéir à Dieu comme je l'ai chanté. » Regardez avec moi cette exhortation de Paul, 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » C'est le contraire de la faiblesse. Soyez fermes. C'est un commandement. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider si on veut s'éloigner du mal, si on veut faire le bien, si on veut faire ce que Dieu nous demande. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. J'espère que vous voulez tous, quand vous passerez devant Dieu, que ça se passe bien avec le Seigneur. C'est ce que vous voulez, hein ? Il y a des chrétiens, on en parlait tout à l'heure avec les jeunes pasteurs, là. On en parlait tout à l'heure, j'avais entendu dans une pastorale, un pasteur, il était rempli du Saint-Esprit, je peux vous le dire, qui parlait, on n'était que des pasteurs. Et il parlait à des, il disait, mais voilà, il y a des frères parmi vous, vous n'avez jamais été appelés au ministère, vous êtes là, mais vous êtes rentrés dans le ministère parce que là. Et d'autres frères dans les églises ne sont pas rentrés dans le ministère alors qu'il aurait dû y rentrer. Enfin, et je crois que quand on n'est pas ferme, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mes frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous sommes ici ce soir parce que nous avons envie que Dieu nous parle. Mais je peux vous dire qu'au-delà de sa voix, il y a la puissance du Saint-Esprit capable de nous donner sa puissance. Vous le croyez que Dieu est capable de nous donner sa puissance ? Bien sûr, pour que nous vivions ce que nous sommes en train de lire, pas travailler de plus en plus. Il y a des endroits où on travaille de plus en plus et on s'acharne au travail. Il n'est pas dit de travailler de plus en plus, il est dit de travailler de mieux en mieux. Ce n'est pas la même chose. Travailler de plus en plus, c'est peut-être très gratifiant. Les gens vont vous dire, oh, qu'est-ce que tu bosses pour eux, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est formidable. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit la volonté de Dieu, que nous nous abrutissions dans une quantité de travail. Par contre, travailler de mieux en mieux, c'est quelque chose que l'on peut faire parce que nous aurons appris à discerner la volonté du Seigneur. Il faut être ferme. Au chapitre 16, regardez au verset, si je ne me trompe pas, au verset 3. C'est dans les Corinthiens, 5 Corinthiens 16, verset 3, je l'avais marqué. Non, c'est dans Romains alors, je pense. Il y a un autre texte où il est demandé d'être ferme dans la foi. Est-ce que vous voulez être ferme dans la foi ? C'est nous qui le choisissons. Au verset 13, oui, c'est le verset 13 en plus, oui, c'est ça. Vous voyez ? Merci, monsieur de Dieu. Veillez, pourtant je l'ai mis, et oui, j'ai mis 3. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Demeurez ferme, c'est un choix. Je décide de vouloir être fort dans le Seigneur. C'est une décision. On ne peut pas gagner cette guerre spirituelle. Pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas ? Pourquoi les églises ferment ? Pourquoi nous voyons tant et tant et tant de dégâts ? Pourquoi ? Eh bien parce que les gens n'ont pas appris à vivre ce qu'on est en train de partager, c'est-à-dire à être ferme dans le Seigneur. La bataille, elle est déjà gagnée en plus. Le problème, c'est qu'elle est déjà gagnée. C'est que Jésus est déjà le vainqueur. Mais nous devons nous entrer dans cette vie de victoire à condition que nous ayons pris position. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de cette position en crise, d'être assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ, mais pas être assis le temps d'une réunion. Voilà ce que le diable arrive à faire, c'est que les gens sont victorieux le temps d'une réunion. Vous avez vu, on a chanté le cantique aussi, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Seigneur. Enfin, quand on lit ce cantique, quand on chante ce cantique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce chant de victoire. On a des cantiques de victoire. C'est pas parce qu'on chante des chants de victoire que l'on vit dans la victoire. On est dans la victoire quand on commence à s'asseoir dans la victoire. Et ça, c'est continuel. On vit véritablement dans la victoire. Soyez forts ou fortifiez-vous dans le Seigneur, dit le texte. Alors, est-ce que nous sommes dans le Seigneur ? Vous allez me dire, mais monsieur Gou, c'est évident. D'accord. Est-ce que nous sommes vraiment dans le Seigneur ? Est-ce que nous vivons dans le Seigneur ? Ou est-ce que nous sommes chrétiens, le temps de quelques réunions ? Vous savez, moi encore aujourd'hui, j'ai eu une visite. Ça m'a fait peur. Mais peur. Une personne qui se dit chrétienne dit, voilà, j'ai pris le baptême, mais je vis dans le péché. Enfin, c'est moi qui lui ai dit qu'elle vit dans le péché. Elle me dit, je vis avec un homme sans être mariée, tatati, tatata. Je dis, mais vous êtes chrétienne, vous ne l'êtes pas. Et pour les gens, là, ils ne sont pas assis dans la victoire. Ils sont assis dans les ténèbres. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça ne peut pas être plus clair. Et c'est pour vous dire, l'aveuglement de certains chrétiens, c'est pour ça qu'il faut poser la question, fortifiez-vous dans le Seigneur, on ne peut pas ne pas être fortifié si véritablement nous choisissons de vivre dans le Seigneur, si nous sommes en esprit avec lui, si sa parole est vraiment notre nourriture. Est-ce que vraiment je suis le temple du Dieu vivant ? Est-ce que c'est écrit ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ah oui, il y a des gens, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit, c'est le temple du diable. Il faut dire les choses comme elles sont, sinon on ne s'en sortira jamais. Est-ce que nous voulons être forts dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça? Mais oui, mais moi c'est ce que je veux. Je veux vraiment être fort dans le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'on a des super idées. Oh mais tu sais, moi je sais comment il faut faire. Moi je suis un chrétien de telle église. Je suis pentecôtiste. Moi j'ai plein d'idées. Je sais quelles sont les méthodes. Écoutez, le Seigneur ne demande pas d'être fort dans nos idées, fort dans nos pensées. Le Seigneur nous demande d'être fort dans sa présence. Parce que l'intelligence et les plans, ça on est capable d'en faire. Mais la Bible est bien claire, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est le même verset quand il est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». L'apôtre Paul est en prison. Si vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, vous serez étonné comment la joie de Dieu est dans le cœur de cet homme. Vous serez étonné si vous chaque fois que vous notez le mot « joyeux »,« joie »,« réjouissez-vous », c'est le mot qui ressort certainement le plus dans cet épître de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que ça veut dire quand je réjouissez-vous? Alors on est tout le temps content, on chante, on saute, on danse. C'est ça, il y a des églises, ils l'ont interprété comme ça. Ça fait que tout le monde chante, ça saute, ça crie, ça hurle. Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que vraiment ma joie, je l'ai parce que je suis vraiment avec Dieu. Épreuve, pas épreuve, je suis dans le Seigneur. Et j'ai une joie parce que je suis sauvé. Mais, voyez, et dans les églises, on pousse les gens. Moi, je l'ai vu ça. Allez, réjouissez-vous, levez-vous, tapez des mains, réjouissez-vous, vous êtes dans le Seigneur. Si vous êtes dans le péché, vous pouvez taper des mains tant que vous voudrez. Ça créera une espèce d'ambiance qui va plaire ou ne pas plaire. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec de l'exubération, ça n'a rien à voir avec de l'excitation ou de l'enthousiasme. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je suis dans le Seigneur et je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et quoi que ce soit qui peut m'arriver, eh bien je sais vraiment que je peux compter sur la grâce de Dieu. Et je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, alors que ce n'est pas, humainement ce n'est pas possible. Il y a trop de sujets de tristesse. Mais là aussi, c'est une question de position spirituelle. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris l'épître de Paul aux Éphésiens. Et quand je vous disais dimanche que s'il y a bien un livre dont l'Église a besoin actuellement, c'est bien l'épître de Paul aux Éphésiens. Rester en lui, c'est ça. C'est une façon de rester en lui. Je réalise le salut. Je réalise quelle est ma position. C'est pour ça que Paul nous demande d'être enracinés. Vous connaissez ce texte, on peut le lire parce qu'il est important. Dans Romains au chapitre 6, j'ai fait allusion, je crois, mardi dernier, mais je veux y revenir. Romains chapitre 6, sur le baptême, parce que le baptême, beaucoup de gens ont pris le baptême, ils n'ont mais absolument rien compris au baptême, rien. Ils ont peut-être accepté Jésus comme sauveur, mais ça, c'est le béaba de leur expérience. Le baptême, c'est une mort, c'est-à-dire que j'accepte que ma vie ne m'appartient plus, comme on l'a chanté dans ce beau cantique, je lui offre ma vie. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, c'est ça la position. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, etc. Et au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » C'est là, quand nous expérimentons le fait d'être enracinés en lui, c'est ça, se réjouir dans le Seigneur, se fortifier dans le Seigneur, être cette plante. Vous imaginez une plante, si on la prenait et qu'on la dépote tout le temps, qu'est-ce que ça donnerait? Elle mourrait. C'est pas... Essayez, faites-le. Prenez une plante, dépotez-la, déracinez-la. Vous allez voir au bout de quelques semaines la plante, comment elle va être. Et c'est ce que font les chrétiens. Ils sont dans le Seigneur, puis le soir, ils sont devant la télé en train de regarder des âneries, ainsi de suite. Ils ne sont pas enracinés, ils ne sont pas en Christ, ils ne sont pas assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pour ça que l'ennemi, lui, ça lui est entièrement égal. Et Dieu veut que nous soyons fortifiés. Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Et vraiment, je crois que nous avons tout à gagner à réfléchir sur ces choses et à dire, mais Seigneur, mais moi, c'est ce que je veux. Je veux être fortifié, même si mon corps parfois est fatigué. Je veux que mon esprit soit fortifié. Je veux véritablement me préoccuper de ces choses. C'est la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a une prière de Paul. C'est une prière que je vous encourage à méditer. C'est au chapitre 3. D'ailleurs, c'est un livre que je vous demande, j'allais vous dire, d'apprendre par cœur. Non, mais presque. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Dans ce chapitre, au chapitre 3, il y a la deuxième prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Et regardez ce qu'il leur dit. C'est une prière. Alors, nous, on connaît tous le verset 20. Ah, ça, le verset 20. Ah, alors là, le verset 20, tout le monde le connaît. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, etc. C'est le verset, tout le monde le connaît. C'est pas vrai? Mais il est sur les signés, il est partout ce verset. Mais je peux vous dire qu'il y a une coordination. Or, ça dépend de tout ce qu'on va lire. Éphésiens chapitre 3, verset 13. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul? N'oubliez pas qu'il est en prison et qu'il est dans cette attitude de victoire. Il n'est pas dans la défaite. Il est assis dans les lieux célestes. Il fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et qu'est-ce qu'il veut? Regardez bien. Afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, E majuscule, dans l'homme intérieur. C'est votre esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et après, il y a le verset préféré qui vient. Mais à condition que nous soyons fortifiés par son esprit, que notre esprit soit fortifié. Et ça dépend d'une position. Vous voyez, Paul, il est là, à genoux, dans cette prison, il fléchit les genoux, il est dans la victoire, parce qu'il est assis dans l'obéissance. Et si on est à la fois enraciné pendant le temps d'une réunion, et qu'après on est enraciné dans le péché, tout ça, c'est du n'importe quoi, c'est de la tradition, de la religiosité, mais ce n'est pas la vie de l'esprit. Comment on peut résister au diable si on ne lui résiste pas avec une foi ferme? C'est écrit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est ce que nous devrions demander au Seigneur. Quand il est parlé de Jean-Baptiste, je vous donne le verset, Luc 1, 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Alors c'est vrai. Je vais pas être long, je veux juste vous donner deux ou trois exemples que vous allez méditer. On est fortifié de deux façons. On est fortifié par l'exercice, c'est pour ça qu'il faut être armé de toutes les armes. Vous avez lu l'embryon de ce que j'ai fait. Tenez donc ferme, revêtez, etc. La ceinture à vos reins, etc., etc. Il y a un combat. Il y a un combat qui doit être mené avec les armes, en étant fortifié intérieurement. Parce que se battre contre la chair et le sang, se battre avec ses propres armes, quand nous sommes enracinés, dépotés, tout ça, c'est la défaite. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont découragés. On est fortifié de deux façons, par le combat, c'est comme ça, par l'exercice. Tous les gens qui font du sport à haut niveau, ils s'entraînent continuellement. Ils font de l'exercice. Mais spirituellement, nous sommes fortifiés par l'exercice, mais d'abord, nous devons être fortifiés par la parole. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre certains textes bibliques. On va lire quelques-uns. Dans Josué, au chapitre 1er, Dieu lui demande d'être fort. Vous connaissez le texte, Josué, chapitre 1er. J'ai pris la version du rabbinat français. Vous savez, la version juive. Cette version que l'on utilise dans les synagogues. En France, mais sûr pas que l'Ancien Testament, puisqu'il ne croit pas que Jésus est le Messie. Mais quand même, moi, je trouve que c'est une très bonne traduction, la traduction du rabbinat. Et dans Josué, au chapitre 1er, et au verset, on va lire à partir du verset 5, j'ai pris cette version parce que justement, à la place du mot fortifié, il y a écrit ferme. Josué, chapitre 1er, verset 5. Josué va devoir accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu l'a choisi pour succéder à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande d'être fort. Mais là, ce n'est pas par l'exercice, c'est par la parole. par la parole. Josué chapitre 1, verset 5. « Nul ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai faiblir, ni ne t'abandonnerai. Sois ferme et vaillant. » Et vous avez ? Voilà. « Sois ferme et vaillant, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. Mais sois ferme et bien résolu. » Voilà aussi pourquoi j'ai pris cette version. J'aime énormément cette parole. « Sois ferme et bien résolu. » Résolu, pardon. « En t'appliquant à agir conformément à toute la doctrine. » Vous avez vu ? Comment il va être fort ? Là, ce n'est pas l'exercice. « En s'appliquant à agir conformément à toute la doctrine que t'a tracée mon serviteur Moïse, ne t'en écarte à droite ni à gauche pour que tu réussisses dans toutes ses voies. Ce livre de la doctrine ne doit pas quitter ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'en observer avec soin tout le contenu. C'est alors seulement, car alors seulement tu prospéreras dans tes voies, alors seulement tu seras heureux. Oui, je te le recommande, sois fort et résolu, sans peur et sans faiblesse, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans toutes tes voies. » Et à la fin du verset 18, il est écrit « Sois ferme et résolu. » Pourtant, c'est pour tout un peuple. Mais je crois, comme Jésus l'a dit à Pierre, « Toi, que t'importent les autres, toi, suis-moi. » Mes frères et sœurs, c'est vrai que la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais quand même, Dieu s'adresse à chacun de nous. Et voyez, Dieu voulait bénir le peuple d'Israël, il a choisi Josué, il dit « mais sois ferme et résolu ». Donc, pour commencer à être ferme, il ne faut pas se battre, il faut commencer à être fort intérieurement par la parole de Dieu. Et il y a des chrétiens qui ne lisent plus la Bible. « Oh, je n'ai pas le temps de lire la Bible ». Ils n'ont pas le temps de la lire la Bible, mais ils ont le temps de regarder la télé. Alors vous allez me dire « oh, monsieur Gau, ça ne nous plaît pas ce discours ». Mais c'est quand même la vérité. Je pense qu'un chrétien qui veut vivre ce qu'il a chanté tout à l'heure, eh bien, il va dire, eh bien, moi aussi, ce que tu as dit à Josué, est-ce que Dieu nous le dit à nous aussi ? Mais bien sûr, c'est évident. Et peut-être quelqu'un a dit, mais Seigneur, ce soir, parle-moi. Eh bien, vous serez fortifié en agissant selon toute la parole de Dieu. Sois résolu. Alors, j'ai pensé à plusieurs textes parce que je ne voudrais pas être long. Je pourrais l'être par rapport à ce sujet. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ait quelques minutes pour aider ceux qui n'arrivent pas à prendre cette victoire. Vous savez, le diable, il fait tout. Ce matin, j'ai prié pour des fils prodigues. Et dans mon cœur, j'avais cette conviction qu'ils sont liés par les ténèbres. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, mais viens à l'église. Et il va dire, oui, je vais revenir. Et il ne peut pas. Parce qu'il a donné accès au diable. Est-ce que vous savez qu'on peut donner accès au diable ? On peut... À la place de résister, il y a des gens qui pensent résister au diable, et c'est à Dieu qui résiste. Et quand on voit certains textes, on va en prendre un ou deux. Regardez avec moi dans le prophète Daniel. L'autre jour, je faisais mon culte personnel et je pensais à un verset sur la faveur. Donc j'ai pris ma concordance et clac, et j'ai cherché la faveur. Et je suis tombé sur ce texte de Daniel au chapitre 1er. Vous savez que Daniel est en captivité. Il a été arraché. Je ne sais pas tout ce qu'il a dû voir. Parce que quand on sait comment ça se passait, laissez-moi vous dire que Daniel a dû vivre des trucs terribles. Peut-être qu'il a vu ses parents se faire massacrer sous ses yeux. Est-ce que c'est possible ? Mais croyez-moi, laissez-moi vous dire que quand vous voyez les exactions qu'il y avait, et ce garçon, il a décidé d'obéir à Dieu. Parce que oui, avec ce que j'ai vécu, vous savez, j'ai été tapé par mon père. Mais si vous voulez mon témoignage, vous allez voir comment mon père m'a gâté. Mes frères et sœurs, je crois qu'il faut arrêter de se cacher derrière le passé. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et Daniel faisait partie de ces gens qui savaient ce qu'ils voulaient. C'est facile de justifier son péché en parlant de son passé. C'est pas sérieux en tous les cas. Daniel chapitre 1, verset 8. Regardez bien. Daniel, résolu, il venait juste d'être amené en captivité. Imaginez-vous qu'on vous arrache de chez vos parents, qu'on vous tue vos parents et qu'on vous amène dans un pays, en Afrique du Nord, j'en sais rien. Ça serait dur, hein ? Ce qui est arrivé. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et le vin dont le roi buvait, parce qu'ils étaient offerts à des idoles d'abord. Et lui ne voulait pas consommer cette viande qui était, et ce vin qui était offert à des idoles. Pour lui, c'est un péché. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Si on synthétise le verset, Dieu résolu, Dieu fit trouver grâce. Et quand vous prenez des résolutions, Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Et Josué avait décidé, on le voit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous lisez le comportement de Josué, le peu qui est dit sur Josué, vous avez compris pourquoi Dieu l'a choisi. Et là, c'est pareil. Daniel a résolu, il a pris une résolution. Il n'a pas dit, ouais, j'ai vu mes parents se faire assassiner, j'en ai marre. Non, il a, je crois que Dieu l'a béni. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il a dit ça, je ne m'en nourrirai pas. Et mes frères et sœurs, l'image, elle est facile à faire avec tout ce que le monde nous offre à manger. Parce que croyez-moi que le monde, il est achalandé pour nourrir votre âme de mets diaboliques. Et que tout ce qui rentre par les yeux et tout ce qui rentre par les oreilles, c'est de la nourriture. Vous pouvez le dire comme vous voudrez, c'est exactement ça. Et Daniel a décidé, il a résolu dans son cœur, il ne faut pas s'étonner, qu'il a trouvé grâce. Parce qu'on peut dire, Seigneur, je veux ta grâce. Si vous ne prenez pas la résolution d'obéir à Dieu, bien sûr que Dieu sera miséricordieux, il est bon. Mais je me pose la question à ceux qui veulent avoir cette position en crise, ceux qui veulent expérimenter ce qu'ils viennent de chanter. Mes frères et sœurs, vous avez là la preuve d'un homme qui a obtenu grâce. Vous voulez obtenir grâce aux yeux de Dieu ? Vous voulez obtenir grâce aux yeux ? Eh bien, et Dieu va vous aider. Vous croyez que Daniel était meilleur que les autres ? Non, il avait pris la décision. Celui que Job avait décidé. Quand Satan parle de lui, Dieu, vous avez vu comment il parle de lui ? T'as vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il avait décidé de se détourner du mal. Daniel avait décidé de se détourner du mal. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils cautionnent le mal, ils ne s'en détournent pas. Le diable a réussi à leur prouver que ce n'est pas si mal que ça, puis que les autres le font, et tatati, et tatata. Mes frères et sœurs, c'est ça la décision. Je veux rester ferme. Et je prends un dernier exemple, il n'y a que l'embarras, hein, avec les hommes que Dieu a utilisés. Romains chapitre 4, Abraham, c'est pareil. Abraham, vous ne croyez pas qu'il a souffert, cet homme aussi ? Franchement, quand vous voyez ce qu'il a vécu. Et au chapitre, moi j'aime beaucoup ce chapitre, parce que c'est un homme qui restait ferme, il n'a pas faibli. Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 22. On va arrêter là, parce que je voudrais vraiment que l'on puisse avoir un petit moment de prière pour ceux qui ont besoin de se décider, de se déterminer. Si Dieu a dit à Josué, sois ferme et résolu, si Daniel a été résolu, regardez Abraham, Romains 4, verset 19, et sans faiblir dans la foi. Il l'a choisi, vous voyez, entre la fermeté et la faiblesse. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Vous voyez là quelqu'un de déterminé. Il a presque 100 ans, bon, quand même quand on a 100 ans, on pourrait commencer à douter. Il a presque 100 ans et il dit non. Je ne vais pas faiblir, je vais rester ferme dans la foi, je vais m'appuyer sur ses promesses et j'ai la conviction, mais c'est ça aussi. Quand plus vous lisez la Bible, plus votre esprit est fortifié et vous êtes fortifié par le Seigneur. Ce n'est pas votre force à vous, votre détermination, oui, je me fais violence dans le sens de par moi, non. C'est prenez courage en lui. Abraham a été fortifié parce qu'il a glorifié Dieu. Est-ce que nous sommes des gens qui glorifions Dieu ? Vous avez vu ? Il a été fortifié en donnant gloire à Dieu. Est-ce que vous donnez gloire à Dieu ? Quoi que ce soit que vous traversiez, parce que bon, à 100 ans, vous pouvez quand même vous poser la question, est-ce que je vais finir par avoir un enfant ? Oui ou non ? À 100 ans, moi je trouve quand même, on a quand même pas mal patienté. À plus, Dieu lui avait fait la promesse. Bon, c'était pas longtemps, mais enfin 25 ans avant. Il n'avait que 75 ans. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir Parce que Dieu regarde au cœur. Moi, ça me regarde, oui ou non. Oui, si vous voulez en faire un sujet de prière, si vous voulez en parler avec moi, parce que je suis votre pasteur. Mais vous n'avez pas trop besoin de moi. Croyez-moi, vous avez besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire, je suis d'accord. Je n'ai pas résisté au diable, j'ai résisté à Dieu. Maintenant, je veux être fort. Je veux m'asseoir dans cette position de victoire, m'y enraciner vraiment. Vivre dans une obéissance et commencer à nourrir mon esprit. Vous avez vu comme dit, franchement, moi je ne sais pas, moi j'aurais voulu former un chef de guerre, je n'aurais pas dit, écoute, seulement juste médite la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, seulement je te demande une chose, médite la parole de Dieu, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, je résume, il y a deux façons d'être fortifié, en méditant, en vivant cette expérience d'être fortifié dans le Seigneur, et puis après, dans l'expérience de tous les jours, en mettant en pratique ces choses, dans un véritable combat, lorsque vous venez, que vous priez, que Seigneur, tu vois, comme vous l'avez fait tout à l'heure, pour les uns, pour les autres, pour l'avenir de l'Église. Lorsque vous priez, voilà, quand vous avez une contrariété, ah non, 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 je ne me laisserai pas vaincre par le mal, je surmonterai le mal par le bien, etc. C'est ça, utiliser l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la vérité pour ceinture. Mes frères et sœurs, Dieu attend cela. Le combat, il sera gagné, non pas par une église qui est nombreuse, ou par une église qui est financièrement puissante, ou tout ça, Dieu peut l'utiliser. Dieu peut l'utiliser dans une certaine mesure. Dieu utilise une chose, des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils sont fortifiés dans le Seigneur. Alors on va fermer les yeux quelques instants. Et c'est à vous de répondre. Sérieusement, mes frères et sœurs, je crois que plusieurs parmi nous, nous prions pour le réveil, nous prions pour la croissance réelle de l'Église selon la volonté de Dieu. Eh bien, ça passera par là. Je peux vous le dire, ça ne peut pas passer par autre chose. Par ce chemin de consécration, d'abnégation joyeuse, d'obéissance joyeuse, de vie de l'esprit joyeuse. Vous comprenez bien que quand quelqu'un est avec Dieu, il ne peut pas être triste. C'est quand quelqu'un est mitigé qu'il est triste. C'est quand quelqu'un il aime le péché en même temps qu'il aime Dieu qu'il est triste. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est impossible de concevoir un instant que quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la consécration, puisse être triste. Il ne peut que se réjouir dans le Seigneur.